France Musique. Musicopolis. Une symphonie à programme ? C'est le compositeur lui-même, Félix Mendelssohn, qui l'appelle sa symphonie Réformation. Cela en raison de l'intention avec laquelle il l'a écrite pour être jouée pendant les fêtes du tricentenaire de la confession d'Augsbourg, le texte qui, en quelque sorte, fixe la doctrine luthérienne. On reconnaît là le choral « Ein feste Burg ist unser Gott », une puissante forteresse est notre Dieu, qu'on appelle aussi « choral de Luther ». C'est ainsi que Félix Mendelssohn, élevé dans la religion luthérienne, entend célébrer cet anniversaire de la confession d'Augsbourg avec une mélodie de chorale qui lui semble particulièrement symbolique. Un chorale très souvent chanté dans les services luthériens et que son grand prédécesseur Bach a lui aussi mis en valeur, notamment dans l'une de ses cantates pour la fête de la Réformation. Pour Mendelssohn, ce jeune homme de 20 ans tout juste qui commence à composer une symphonie pour célébrer la religion luthérienne, utiliser le choral de Luther, c'est en quelque sorte se mettre comme compositeur sous le haut patronage de tous les musiciens qui l'ont précédé, et en particulier ce Jean-Sébastien Bach qu'il admire tant et dont il a réussi à donner quelques mois plus tôt une magnifique exécution de la Passion selon saint Matthieu, une partition oubliée depuis la mort de Bach 80 ans plus tôt. Mais reprenons l'histoire de la symphonie Réformation depuis le début. Nous en trouvons la première trace dans la correspondance de Mendelssohn le 2 septembre 1829. Il en parle à ses sœurs Fanny et Rebecca, mais juste en passant, alors qu'il est au Pays de Galles pendant son grand tour d'initiation. C'est dans le final de sa symphonie que Mendelssohn cite le choral de Luther que nous écoutions tout à l'heure. En revanche, dans le premier mouvement, il cite quatre notes d'une hymne grégorienne, le Pange Lingua. Quatre notes qui, dans leur simplicité, ont donné lieu à d'abondantes transformations chez de nombreux compositeurs, parmi lesquels les frères Haydn, Joseph et Michael, et leur jeune collègue Mozart. Vous noterez au passage que cette hymne grégorienne, le Pange Lingua, sur un texte de Thomas d'Aquin, auteur du XIIIe siècle, fait partie de la liturgie catholique et existait bien avant la Réforme et la confession d'Augsbourg. C'est un peu comme si, dans sa symphonie, Mendelssohn commençait par nous raconter ce qui s'est passé avant la Réforme. Le 10 septembre 1829, Félix Mendelssohn, toujours en voyage, écrit d'Angleterre à sa famille après avoir quitté le pays de Galles. « À mon arrivée à Londres, dit-il, j'ai repris ma vie tranquille, qui consiste à écrire de la musique et lire de l'anglais. Mon quatuor est maintenant au milieu du dernier mouvement et je pense qu'il sera fini dans quelques jours. Tout comme la pièce d'orgue pour le mariage. Puis je commencerai ma symphonie Réformation, la symphonie écossaise et les Hébrides, en leur donnant forme progressivement. J'ai aussi beaucoup de musique vocale qui me tourne dans la tête. Les Clementi m'ont rapporté le magnifique piano que j'avais déjà à mon précédent séjour. » Après avoir cité quelques notes du Pange Lingua, Mendelssohn fait entendre une mélodie connue comme « l'Amen de Dresde ». Cet Amen est chanté en saxe, aussi bien dans les églises catholiques, sur les mots latins « et cum spiritu tuo », que dans les églises luthériennes, sur les mots « und mit deinem Geist ». Autrement dit, et avec votre esprit. Mendelssohn va ensuite transformer ce thème, le donner à l'endroit, à l'envers, changer les rythmes et l'orchestration pour construire tout son premier mouvement dédié à l'Esprit de Dieu, au nom duquel le combat de la réforme va être mené. On n'a pas connaissance d'une commande qui aurait été passée à Mendelssohn pour sa symphonie Réformation. S'il a tenu à se mettre au travail, c'est parce qu'en bon luthérien, il connaissait la date du 25 juin comme celle de l'anniversaire de la confession d'Augsbourg et qu'il savait que nécessairement, pour le 300e anniversaire, il y aurait nombre de festivités importantes et qu'il aurait toutes les chances de se faire jouer. L'année précédente, en 1828, on lui avait demandé d'écrire une cantate pour les 300 ans de la mort de Dürer. Et dans la foulée, il avait dû composer une autre cantate, très bien accueillie, pour un congrès de naturalistes. Il y avait ensuite eu la recréation de la Passion selon saint Matthieu sous sa direction. Et après cet immense succès, il avait tout lieu de croire qu'il serait bien inspiré de composer quelque chose pour cet important tricentenaire. Thank you. Au mois de décembre 1829, le jeune Mendelssohn rentre à Berlin pour voir sa famille. Il a besoin de se retrouver chez lui pour composer au mieux. Il a bien l'intention de repartir en février pour l'Italie, un voyage qui lui semble absolument nécessaire pour sa formation de compositeur. Il se met donc sérieusement à sa symphonie, qu'il pense finir fin janvier 1830, donc largement à temps pour les festivités du mois de juin. La symphonie avance, mais pas aussi vite que Mendelssohn l'avait prévu. Il espère à présent terminer fin février. Mais fin mars, il n'a toujours pas fini et il s'arrange pour attraper la rougeole de sa sœur Rebecca. Le voyage de Mendelssohn est repoussé. Il doit rester au repos et c'est seulement le 12 mai 1830 qu'il achève enfin sa partition. À ce moment-là, il sait sans doute qu'elle ne sera pas jouée à Berlin pour les festivités du 25 juin. Au centre du deuxième mouvement de la symphonie se trouve une charmante mélodie. Cette mélodie est une citation d'une cantate de Carl Philipp Emanuel Bach, que Mendelssohn a sans doute eu l'occasion de lire à Berlin. Les paroles font allusion au désir du créateur de voir sa création heureuse, quoique sa sagesse l'incite plutôt aux larmes. Les larmes évoquées dans la citation utilisée par Mendelssohn pourraient faire penser aux difficultés de Luther d'établir sa réforme et à la résistance qu'il a dû affronter. Le 13 mai 1830, lendemain du jour où il met un point final à sa symphonie, Mendelssohn part pour son grand voyage. Le 25 juin, au moment où les fêtes prévues pour le tricentenaire de la confession d'Augsbourg battent leur plein dans toute l'Allemagne luthérienne, en particulier à Berlin, le jeune homme est à Munich, ville catholique où, bien évidemment, on ne fête rien. Thank you. À Berlin, pour les festivités du tricentenaire de la confession d'Augsbourg, ce n'est donc pas la symphonie de Mendelssohn qui est jouée. Le genre de la symphonie paraît peut-être inapproprié. Mais une cantate d'un certain Eduard Grell. Ce Grell est compositeur et organiste, il dirige le chœur royal et il est en charge d'un certain nombre de commandes touchant à la musique religieuse pour le roi de Prusse. C'est sans doute la raison pour laquelle il a été choisi plutôt que Mendelssohn. Mais d'autre part, les historiens évoquent aussi l'antisémitisme en recrudescence en Allemagne à cette époque, et donc la possibilité que Mendelssohn ait été écarté en raison de son origine juive. Je vous parlais tout à l'heure de lui comme d'un bon luthérien, ce qu'il est effectivement. Mais dans la mesure où, né dans une famille juive, il n'est devenu luthérien qu'à l'âge de 7 ans, il reste en butte aux attaques antisémites. Avant le 25 juin 1830, Mendelssohn a essayé de faire jouer sa symphonie à Leipzig, mais sans succès. Il écrit à ses sœurs qu'il voudrait la faire publier rapidement, avec aussi un arrangement pour piano à quatre mains. À Munich, la saison orchestrale est finie, et il n'est pas possible de faire jouer la symphonie. Mais le jeune homme a l'occasion de la jouer au piano devant l'orchestre et devant un certain nombre d'amis, et il est enchanté de leur accueil. Devant un tel public, écrit-il, on sait pourquoi on est musicien. Après Munich, Mendelssohn part pour l'Italie, via Salzbourg et Vienne. Il va passer un an dans la péninsule et voir Venise, Bologne, Florence, Rome, Naples, Milan. Il repasse par Munich, où il est bien prévu de donner sa première symphonie et la Réformation, qui est de fait sa deuxième. Mais qu'elle soit décidément trop luthérienne pour cette ville catholique ou qu'elle soit trop difficile pour l'orchestre, l'œuvre n'est pas jouée. Pourtant, le jeune homme trouve un orgue magnifique sur lequel il joue sa partition qui sonne, selon lui, puissante et extrêmement sérieuse. Mendelssohn poursuit son voyage avec la France. François Habeneck, le chef de l'orchestre du conservatoire, lui promet de jouer plusieurs de ses œuvres, dont la symphonie Réformation. Une répétition a lieu. Ferdinand Hiller, ami de Mendelssohn, écrit « Le récit unanime que l'on m'en fit fut que cette œuvre avait déplu à l'orchestre. Certains prétendaient qu'elle était trop savante, trop fuguée, qu'elle manquait de mélodie, etc. » À l'époque, Mendelssohn estimait beaucoup cette œuvre. C'est dire par là combien il fut peiné de l'indifférence avec laquelle le parti fut pris de ne la point exécuter en public. C'est seulement de retour à Berlin que Mendelssohn peut donner la première audition avec orchestre de sa symphonie Réformation, non sans l'avoir profondément révisée. Le concert, durant lequel la symphonie est entourée de nombreuses autres œuvres, comme Le songe d'une nuit d'été, a beaucoup de succès. Mais quelques critiques lui trouvent des défauts, d'être de la musique à programme, de manquer d'invention mélodique et de clarté dans la présentation. Quelle qu'en soit la raison, l'œuvre ne sera plus jouée et Mendelssohn va peu à peu la mettre de côté, en quelque sorte, la répudier. Elle ne sera publiée et rejouée que 20 ans après sa mort, en 1868. Le final de la symphonie Réformation de Félix Mendelssohn, l'orchestre baroque de Fribourg, dirigé par Pablo Heras Casado. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Manuel Couturier pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.